Milieu et climat. Les hommes ne sont pas tous soumis à des conditions de vie identiques. Le ciel leur réserve bien des surprises. Dès 2700 avant notre ère, en Chine, le physicien chinois Naizing Suwen donne ainsi les toutes premières prévisions météorologiques. Car l'atmosphère, la couche d'air autour de la Terre, se déplace continuellement. Selon sa position par rapport au Soleil, elle est plus ou moins réchauffée. Air chaud à l'équateur, froid au-dessus des pôles. Son rôle est essentiel, à la fois comme filtre des rayons solaires ultraviolets et comme cocon qui contrôle la température sur Terre.
Un peu de technique. La pluie et le beau temps. Le mot météorologie vient du grec « météorologos », qui désigne la science des choses de l'air. Son objectif est à la fois d'expliquer les mécanismes de l'atmosphère à basse altitude, c'est l'observation, et de prévoir le temps qu'il fera dans les jours à venir, c'est la prévision. Mais les instruments précis pour le faire manquent. Il faut attendre l'invention de la girouette orientée selon la direction des vents, par Léonard de Vinci au XVe-XVIe siècle, et la mise au point au XVIIIe siècle par Anders Celsius, un physicien suédois, d'une échelle de mesure des températures, encore utilisée sous ce nom de nos jours. Certes, dès l'Antiquité, Aristote, mort en 322 avant Jésus-Christ, s'intéresse à la météorologie, mais c'est pour lui dénier tout caractère scientifique. Il faut attendre la publication en 1863 du Météographica de l'anglais Francis Galton pour disposer d'un ouvrage posant les fondements scientifiques de la météorologie. Et entre les deux, me direz-vous ? La grenouille, avec ou sans échelle, avec ses bons côtés.
Les types de milieux et leurs caractéristiques. Les milieux sont fondamentaux car ils déterminent la possibilité pour l'homme d'y vivre ou pas. Il existe donc une classification des milieux, depuis ceux qui sont vides d'hommes jusqu'à ceux qui présentent les conditions les plus favorables pour l'implantation des sociétés humaines. La voici. Le milieu polaire est celui du froid intense. Moins 40 degrés Celsius en hiver, des 10 mois d'hiver, 2 mois d'été lorsque la température peut atteindre 10 degrés Celsius et de longues nuits polaires, 6 à 8 mois. Le milieu aride connaît de faibles pluies, moins de 250 mm par an, qui sont irrégulières et violentes. Le milieu tropical humide est le lieu de la chaleur constante, d'une absence d'hiver, de pluies de moins en moins importantes de l'équateur vers les tropiques. On y distingue le milieu équatorial sans saison sèche véritable et le milieu tropical avec une courte saison sèche. Les milieux tempérés sont ceux des climats à moyenne thermique annuelle comprise entre moins 10 degrés Celsius et plus 20 degrés Celsius, à quatre saisons, deux marquées, hiver-été, et deux intermédiaires, automne-printemps. On y distingue trois variantes, tempérées océaniques, humides avec des températures douces, tempérées continentales, qui se caractérisent par de grandes différences des températures moyennes été-hiver, et méditerranéens, où les étés sont chauds et secs.
Le saviez-vous ? Chauffe Marcel. Afin d'apprécier à leur juste valeur les chiffres exposés, il convient de se rappeler que la température moyenne diurne durant la journée est de 15 degrés Celsius et la température moyenne nocturne de 5 degrés Celsius. La température la plus élevée, 58 degrés Celsius, a été relevée à El Azizia, en Libye, le 13 septembre 1922. La température la plus basse, moins 89,2 degrés Celsius, a été enregistrée à Vostok, dans l'Antarctique, le 21 juillet 1983. La plus grande amplitude thermique, 106,70 degrés Celsius, de moins 68 degrés Celsius à plus 36,7 degrés Celsius, a été constatée à Verkhoyansk, en Sibérie. L'amplitude de jour la plus forte, 55,5 degrés Celsius, a été relevée à Browning, dans le Montana, aux États-Unis, le 23 janvier 1916. Le réchauffement le plus rapide, de moins 20 degrés Celsius à plus 7,2 degrés Celsius, s'est produit en 2 minutes, à Spearfish, dans le Dakota du Sud, aux États-Unis, le 22 janvier 1943.
Les différents types de climat et leurs caractéristiques. Ils évoluent en fonction de la latitude. Position par rapport à l'équateur qui se traduit par des cercles imaginaires allant des pôles à l'équateur. Ceci permet de déterminer trois grandes zones climatiques en partant de celui-ci. Chaude, tempérée, froide. Chacune de ces zones recouvre à son tour une variété de climat. Si l'on y ajoute les particularités liées à l'altitude, on peut distinguer le climat froid et ses variantes. C'est un climat glaciaire caractérisé par la toundra, une végétation basse, sans arbres, et de possibles gelées en été. Le climat tempéré qui peut être continental, semi-pluvieux, continental, aride, atlantique, méditerranéen. Le climat chaud qui peut être équatorial humide, tropical avec une ou deux saisons humides, semi-aride, désertique. Le climat alpin, c'est-à-dire montagnard, le froid augmentant avec l'altitude.
N'oubliez pas, avec ou sans glace? La banquise est une croûte de glace faite d'eau de mer gelée. Elle se forme lors des 6 à 8 mois d'hiver polaire, quand la température de l'eau de mer est inférieure à 0 degré Celsius. L'épaisseur de glace peut être de 2 mètres, et à partir de ce stade, une partie ne fondra plus, souvent protégée par une couche de neige. Quand la température remonte, la banquise se fractionne. L'Inland 6 est la calotte glaciaire, constituée d'eau douce, qui recouvre le continent Antarctique et le Groenland. Il n'en existe donc plus que deux. Vestiges d'Inland 6 préhistorique beaucoup plus importants encore. L'Inland 6 du Groenland, qui mesure pourtant 2400 km de long sur 1000 km de large, recouvrait toute l'Amérique du Nord, entre moins 65 000 et moins 10 000. Celui de l'Antarctique recouvrait, lui, toute l'Amérique du Sud à la même période. Quant aux icebergs, ils en sont des fragments détachés qui flottent sur la mer. Ils sont classés en fonction de leur taille. Depuis le plus petit, le bourguignon, qui mesure moins d'un mètre au-dessus de la mer et pèse moins de 120 tonnes, jusqu'au très gros iceberg, qui mesure plus de 75 mètres au-dessus de la mer et pèse plus de 2 millions de tonnes.
L'évolution du climat, réchauffement ou refroidissement. Les spécialistes du climat évoquent tous pour leurs contemporains et leurs descendants des jours sombres, mais ne sont pas d'accord sur la cause des catastrophes qui nous attendent. Réchauffement et effet de serre pour les uns, refroidissement et pluies acides pour les autres. Pour les tenants du réchauffement, les activités humaines, surtout depuis la révolution industrielle du XIXe siècle, rejettent dans l'atmosphère de plus en plus de gaz carbonique ou CO2. Ce CO2 provoque l'effet de serre en empêchant la nuit le passage des rayons infrarouges qui permettent d'évacuer le surplus de chaleur accumulé pendant la journée. Il y aura hausse des températures de 0,5 degré à 1 degré Celsius en moyenne entre 2000 et 2050. Le niveau de la mer montera de 20 cm d'ici 2050 et de 70 cm avant 2100. Pour les tenants du refroidissement, la pollution fera obstacle aux rayons du soleil, la température baissera de 0,5 degré Celsius en moyenne entre 2000 et 2050. Elle s'accompagnera d'une augmentation des pluies acides dues au feu allumé pour l'écobuage, la fertilisation des sols par les cendres après incendie dans les forêts tropicales.
N'oubliez pas, au chevet de la planète. Pollution, effet de serre, réchauffement de la planète, catastrophe engendrée par l'activité humaine, place l'écologie parmi les préoccupations majeures des États, qui tentent de s'organiser pour y faire face de manière collective. Mais les efforts restent laborieux. La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement s'est tenue à Rio de Janeiro, au Brésil, du 3 au 4 juin 1992. Elle réunit les représentants de 178 pays, dont 117 chefs d'État. Le concept de développement durable est exposée dans les 27 points de la Charte de la Terre, qui affirme la nécessité du développement économique et social actuel, tout en préservant la planète pour les générations futures. En signant une convention climatique, 150 pays s'engagent à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais elle demeure floue et peu concluante. Les États-Unis et la Chine, comptant parmi les plus gros pollueurs, ayant refusé de la signer. La conférence de Kyoto sur le réchauffement se déroule à Kyoto, au Japon, du 1er au 10 décembre 1997. Elle rassemble 159 pays qui se penchent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le protocole de Kyoto prévoit une réduction moyenne de 5,2% de ses émissions, de 8% pour l'Union européenne, de 7% pour les États-Unis, de 6% pour le Japon et de 6% pour le Canada. Les pays du Sud en voie de développement ne sont pas concernés. Un permis de polluer, réclamé par les États-Unis, permet de racheter à des pays moins industrialisés un certain pourcentage d'émissions de gaz à effet de serre. La conférence de Buenos Aires, du 2 au 13 novembre 1998, réunit 160 pays. Elle ne provoque pas de changement notable, si ce n'est la signature du protocole de Kyoto par les États-Unis. La conférence de La Haye, en novembre 2000, est un échec. Prévue pour que les délégués de 55 pays, représentant 55% des émissions de gaz à effet de serre, s'accordent sur la mise en œuvre des résolutions prises à Kyoto, elle se heurte à l'opposition des États-Unis, de la Chine et de la Russie, les trois plus gros pollueurs de la planète. Du 6 au 17 novembre 2006, s'est tenue à Nairobi la 12e conférence des Nations Unies sur le climat, réunissant 6000 participants venus de 188 pays. Les résultats en sont minces. Les émissions de gaz à effet de serre devront être divisées par deux d'ici 2050. La prolongation du protocole de Kyoto après 2012 date de son échéance. Mais la Chine et l'Inde, dont les émissions cumulées devraient dépasser celles des États-Unis en 2012, maintiennent leur refus de toute diminution au nom de leur droit à la croissance économique. D'ici la fin du siècle, la planète connaîtra un réchauffement d'au moins 2 degrés Celsius.
Les risques naturels. Avec cette partie, nous allons découvrir les catastrophes naturelles qui menacent notre sécurité. Depuis les plus tristement connus, tremblements de terre, volcans en éruption, tsunamis, jusqu'au moins souvent envisagés comme un astéroïde percutant la Terre. De mieux en mieux pris en compte dans les pays riches et développés, l'exposition aux risques naturels demeure l'une des causes flagrantes d'inégalités avec les populations des pays en développement. À défaut d'être totalement évité, le risque naturel peut être encadré par une politique de prévention, d'information, d'organisation des secours.